France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Les débuts de la photographie, chambre ouverte sur le monde. Qui, où et quand? Qui a inventé la photographie? Où, en quel lieu, dans quel pays? Et est-il possible d'en préciser l'année? C'est une histoire des techniques, bien sûr, mais aussi une histoire de bricolage, une histoire de course de vitesse qui se déroule en quelques années quand se joue une révolution, celle de notre manière de voir le monde.
Je vais vous demander un léger sourire. Ça, 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 voilà. Attention, on ne bouge plus. On ne bouge pas. On ne bouge pas. On ne bouge pas. Et voilà. C'est terminé. Vous pouvez bouger. Voilà.
Le cours de l'histoire.
Merci, monsieur Nadar.
Vous en prie. Je vous montrerai le résultat très rapidement, d'ici deux semaines.
Super, Christine Barthes, vous n'avez pas bougé. Donc c'était bien, c'était un extrait de La Venue de l'Avenir, le film de Cédric Lapiche en 2025, un superbe film. Vous êtes responsable, Christine Barthes, de l'unité patrimoniale des collections photographiques du musée du Quai Branly Jacques Chirac à Paris. Et aujourd'hui avec vous pour discuter de ces origines de la photographie, Paul-Louis Roubert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien de la photographie, professeur d'histoire de l'art contemporain à l'Université Paris-Nanterre. Dites-nous, je posais la question, mais quand? Quand la photographie est-elle née? Alors, qui se lance? Paul-Louis Roubert.
Quand c'est une colle. Non, oui. Enfin, c'est-à-dire que la photographie, c'est une invention perpétuelle, en fait. Hein, c'est ce dont on se rend compte encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on parle encore de photographie, on s'étonne encore qu'elle existe. Quand est-ce qu'elle commence? Elle aurait pu commencer n'importe quand, en fait, à partir du moment où on met en présence deux éléments qu'on connaît depuis très longtemps, c'est-à-dire la chambre obscure d'un côté, la chambre noire, et puis le fait que le nitrate d'argent noircisse à la lumière. Donc, quand est-ce qu'on aurait pu très bien l'inventer au XVIIIe siècle? D'ailleurs, deux Anglais, au tout début du XIXe siècle, commencent à faire des premières expériences sur la fixation, ou en tout cas l'enregistrement de la lumière lunaire, de la Lune, renvoyée par la Lune. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à fixer le phénomène, ce qui a tout l'enjeu. Et donc, petit à petit, Niepce, Daguerre et les autres en viennent à produire des expériences pour pouvoir arriver à enregistrer, fixer le point de vue de la chambre obscure. Et c'est un peu tout l'enjeu, en fait. C'est de savoir comment le faire et comment stabiliser le procédé.
Christine Barthes, plus que connaître l'année de l'invention de la photographie, c'est déjà définir ce qu'est la photographie. Et ce que vient de faire Paul-Louis Roubert, c'est mettre en place les éléments d'une définition, parce qu'il y a plein de choses qui précèdent la photographie telle que nous l'entendons aujourd'hui.
Oui, c'est ça. Ça dépend si on remonte au traité d'optique d'Alhazen au XIIe siècle, les traités arabes qui mettent en évidence la chambre noire, ou alors si on se focalise sur la question de l'apparition de l'image, ou sur la question beaucoup plus compliquée de comment stopper cette image qui apparaît et puis qui est difficile à stabiliser. C'est tout l'enjeu du XIXe siècle.
Alors, quelle date a été retenue pour l'invention de la photographie? Parce que à côté de toutes ces réflexions d'historiens, d'historiennes, c'est vrai que la mémoire retient des dates, on a besoin de cela.
Laquelle? Alors, l'histoire a retenu au moins deux dates qui ont un peu évolué. En 1925, on a fêté le premier centenaire de l'invention de la photographie, parce qu'on pensait que Nicéphore Niepce, donc du côté de Chalon-sur-Saône, avait réalisé et fixé la première image enregistrée au fond d'une chambre obscure. Maintenant, on pense que c'est plutôt 1826-1827. Donc ça, c'est la première fois qu'on enregistre, et puis c'est surtout la date de la première image aujourd'hui conservée. Et puis il y a une seconde date qui va revenir en 2039, c'est 1839, c'est la date de la publication libre et gratuite de la recette de la photographie sous la forme du daguerreotype inventé par un décorateur parisien. Donc après, certains disent que c'est plutôt 1824. C'est un enjeu qui est plus tellement un enjeu historiographique. Enfin, maintenant c'est rentré dans l'histoire de la photographie, cette histoire d'enregistrement de date de l'invention. Ça l'a été au début du XXe siècle dans un contexte de concurrence culturel et mémoriel extrêmement fort dans l'entre-deux-guerres. Hein.
Voilà, donc en tout cas, du point de vue des institutions, pour le ministère de la Culture, le bicentenaire de la photographie, c'est 2026-2027. On est un peu sur deux années. Christine Barthes, un nom a été prononcé, parce que le quand, nous sentons qu'il est difficile à définir, mais le qui, Nicéphore Niépce, ça c'est un nom qui apparaît. L'importance de Nicéphore Niépce dans cette histoire, elle est fondamentale. On peut pas passer à côté de Niépce.
Oui. Je vais laisser Paul-Louis répondre sur Niépce, parce que sur la France, moi, je suis moins...
Plus sur le monde.
Vous êtes sur le monde.
Moi, je suis sur le reste du monde.
Paul-Louis Robert.
Nicéphore Niépce, il a un métier au 19e siècle, c'est inventeur. En fait, c'est un propriétaire terrien qui vit de la rente de ses terres. Il a des vignes, il a des terres, il a des bêtes. Et il va engloutir, lui et son frère vont engloutir une grande partie de cette fortune et de cette sorte d'accumulation primitive dans le but de réaliser des inventions. Ils vont réaliser un métier à tisser pour les bas. Ils vont réaliser, ils vont inventer la draisienne, qui est ce vélo sans pédale, hein, qu'on connaît encore pas mal dans les rues de Paris et d'autres villes. Et puis... pour les enfants surtout. Et puis, Niépce a une idée qui naît sans doute des conséquences de l'invention de la lithographie et de son introduction en Europe. Et l'idée, c'est de pouvoir reproduire des images avec ses mots spontanément, c'est-à-dire automatiquement. Et donc, il va chercher pendant de très nombreuses années, il va commencer ses expériences dans les années 1816-1820, et pendant... jusqu'à son décès en 1833, il va chercher cette solution à la reproduction spontanée des images, c'est-à-dire comment faire en sorte qu'une image dont on a perdu la plaque originelle gravée puisse être reproduite par elle-même, en tout cas par des forces naturelles, sans l'intervention de la main. Et c'est tout l'enjeu de cette photographie qui est là dans un système proto-industriel, c'est-à-dire que à la campagne, dans sa propriété du gras, Nicéphore Niépce, seul, sans aucune formation scientifique, essaye d'inventer un système qui reproduit de lui-même les images spontanément.
Les images, c'est-à-dire qu'il y a une image imprimée qu'il veut reproduire ou c'est une image de la réalité ?
Non. Alors, dans un premier temps, c'est vraiment, il a une image imprimée, il veut la reproduire à l'identique, sans avoir à graver, à tracer le quelconque trait avec sa main. Donc c'est vraiment l'idée d'une production, bon voilà, on dirait aujourd'hui automatique, il appelle ça spontané. Mais pour faire ça, donc il a à sa disposition le nitrate d'argent, et puis le bitume de Judée, et puis de l'essence de lavande, il utilise, c'est de la cuisine. Donc il fait un peu de cuisine, il essaye des choses, différentes choses, et il est vraiment tout seul, il n'a aucun contact, parce qu'en plus c'est dans un contexte d'émergence, des inventions, et il est très jaloux de ses recherches. Donc il ne veut pas les partager, il ne les partage qu'avec très peu de personnes. Donc ce qu'il veut trouver là, c'est une substance suffisamment sensible à la lumière pour pouvoir être imprimée par l'action de cette même lumière pour laisser une trace. Et pour parfaire ces expérimentations, il va utiliser un appareil qui est une sorte de concentrateur de lumière qu'on appelle une chambre noire, qu'on connaît, comme le disait Christine, depuis très longtemps, qui a été utilisé par des artistes comme Vermeer, comme Canaletto, etc., pour faire des relevés topographiques, et qui, cette chambre obscure, munie d'une lentille, permet de concentrer la lumière. Et donc il va utiliser ça pour faire des expériences sur la photosensibilité de certaines substances. Ce faisant, il met au fond d'une chambre obscure un support qu'il va photosensibiliser et qui, à terme, va enregistrer le point de vue, c'est-à-dire la projection à l'intérieur de la chambre obscure, de l'image qui se trouve devant, c'est-à-dire en l'occurrence, pour la première image, le point de vue qu'il a de la fenêtre de son laboratoire à la campagne.
Voilà, les toits d'une maison, quelques champs un petit peu au loin. Alors pour la date de cette première photographie, ce qui est présenté comme telle, beaucoup de discussions, donc longtemps 1825, aujourd'hui peut-être plus 1826, peut-être 1827. Moi, je vous donne une autre date, c'est 1822 avec un grand photographe, Brassailles.
Il y a une chose curieuse, n'est-ce pas ? C'est que la photographie, qui est né en pleine époque romantique, en 1822, en même temps que se déroulaient les grands événements romantiques, toutes les phases de développement de la photo correspondaient à l'époque romantique. Parce que même quand Daguerre et Niépce ont signé leur contrat, c'était l'année de la bataille de Hernani, n'est-ce pas? Eh bien, c'est à l'opposé du romantisme, la photo est née. C'était quelque chose qui rappelait le réel, qui ramenait les esprits sur le réel.
Nous étions en 1964 avec Brassailles et Kéok, les débuts de la photographie et le rôle de Nicéphore Niépce. Donc nous sommes dans ces années 1820, comme ça c'est beaucoup plus simple. Et nous avons ici l'exploit de fixer une image. Elle est fixée au sens où, ça y est, nous avons un support qui permet de voir quelque chose et cela dure dans le temps. Dès lors, on a une photographie.
On a une première version de la photographie. Cette photographie, elle existe toujours, elle est conservée à Austin, au Texas, parce qu'elle appartenait à un grand collectionneur de photographies qui a cédé sa collection au tout début de la guerre, qui s'appelait Gabriel Cromer, et ce sont les Américains qui ont acheté cette collection, donc elle se trouve à Austin, au Texas, dans un coffre-fort. Mais certes, l'image du réel est enregistrée, mais sauf qu'il faut un jour et demi, voire deux jours de pause. Donc, ce qui fait que lorsque Niépce va essayer de faire la démonstration de son invention, il va montrer cette image à des scientifiques, et notamment des scientifiques anglais, qui vont dire « bon, bah, c'est très joli, mais à quoi ça sert votre machin, là, en fait ?» Voilà. Pourquoi ? Parce que sur deux jours de pause, en fait, les objets qui sont enregistrés n'ont plus d'ombre propre. Donc, il y a très peu de relief sur cette image. Il manque à cette image, elle a le côté automatique. Il lui manque la promptitude, c'est-à-dire le fait d'avoir un temps de pause suffisamment réduit pour que les objets, les êtres, quand on va suffisamment réduire son temps de pause, gardent une certaine forme de réalisme. Pour l'instant, en un jour et demi, en deux jours de pause, on ne reconnaît rien ou très peu de choses, et du coup, l'image semble inemployable ou sans objet pour le moment.
Christine Barthes, on sait bien que dans l'histoire des sciences, il n'y a pas tant de frontières que cela, et les sciences, par les échanges, font que nous sommes sur des phénomènes au-delà du national. Le génie d'un individu s'inscrit dans un contexte particulier, si bien que d'autres individus au même moment subissent le même contexte. Est-ce qu'on a d'autres gens, en même temps que Nicéphore Niépce, dans ces années 1820, qui réfléchissent à reproduire la réalité?
Alors oui, il y a pas mal de personnes, enfin ça dépend comment on situe le nombre. Geoffrey Batchen, qui est un grand historien de la photographie, a situé autour de 25 personnes le nombre d'inventeurs qui avaient vraiment des pratiques qu'on peut qualifier d'assez proches de celles de Niépce. Le point particulier, c'est que sur ces 25, il y en a 24 qui sont en Europe quand même. Donc on est en Angleterre, on est aux États-Unis, on est en Allemagne, dans différents lieux. Mais c'est quand même assez concentré. Et il y a un seul cas qui échappe un petit peu à cette situation, qui est celui d'Hercule Florence, qui est un franco-monégasque, un niçois en fait, qui part en 1823 au Brésil. Et qui a une histoire assez incroyable, un personnage un peu comme Niépce, comme le décrivait Paul Louis, c'est-à-dire vraiment un inventeur, quelqu'un qui cherche aussi, également comme Niépce, un moyen de fixer une image de reproduction. Comment reproduire une image avec donc les caractéristiques techniques du nitrate d'argent notamment. Donc on a ce cas un peu atypique en fait, d'un inventeur ou d'un expérimentateur de ces débuts de la photographie, parce que c'est vraiment des débuts, je crois, on peut dire vraiment au pluriel, ces différentes expérimentations. Et lui va mettre au point des choses, des images, dont on a partiellement des traces aujourd'hui. On a beaucoup d'écrits aussi qui sont restés. Mais ces premières traces un petit peu attestées, où il dit, voilà, j'ai réussi à former moi aussi une image à partir de ma vue de la fenêtre, c'est la même date que le décès de Niépce, puisqu'on est en 1833.
D'accord, donc c'est particulièrement tôt avec Hercule Florence, né à Nice, sachant que Nice n'appartient pas encore au territoire français. Hein.
Voilà, c'est ça. Donc ça varie. Il a un père sarde, une mère française. Il habite à Monaco. Il a une nationalité diverse.
Comment s'opère le passage du travail de Nicéphore Niépce avec un temps de pause particulièrement long à quelque chose qui devient plus facile pour produire des images? Alors, le temps de pause, c'est vrai que vous avez dit pour Niépce, ça peut être deux jours.
Un jour et demi.
Oui, pour faire poser quelqu'un, c'est pas possible.
Voilà, c'est pas possible. C'est le problème de l'application, en fait. Hein. C'est-à-dire, comment on va passer le stade qui permet de mettre cette invention, je dirais, sur le marché. Et ça, c'est vraiment, ça, c'est le travail qui va être fait par un décorateur parisien, donc qui rencontre Niépce dès les années 1820, et parce que Niépce sent qu'il est coincé, il pense que le problème vient de son maniement de la chambre obscure, il pense qu'il n'est pas assez habile, et donc par l'intermédiaire d'un opticien parisien, il va rentrer en contact avec Louis-Jacques Mandé Daguerre, qui est un décorateur de théâtre, qui a fait faire énormément de progrès à la science du décor au théâtre dans la période romantique. Il fait des trucages pour la première fois. Hein. Il invente des décors avec des doubles entrées, etc., etc. Donc c'est la révolution du théâtre romantique qui devient spectaculaire véritablement. Et puis parallèlement, comme il est fort de cette science de l'artifice, il monte une salle de spectacle qu'il appelle le Diorama, qui est à Place de la République, enfin à l'ancienne place, ce qui était avant la Place de la République. Il y a toujours une plaque. Et dans ce diorama, les spectateurs qui viennent, on le dit à l'époque, même de Londres, même d'Angleterre, on vient voir ce spectacle où on assiste pendant une quinzaine de minutes à un paysage qui va changer de nature. C'est-à-dire, on a la vallée du Goldo, qui est une vallée des Alpes, sous la neige. Et puis, il y a un cataclysme. Et puis tout à coup, le berger qui était là est décédé par un changement de lumière en passant d'une lumière frontale à une lumière par l'arrière du décor. Tout le décor change. Et donc c'est une science absolument formidable et il n'y a pas d'histoire. Enfin, l'image raconte une histoire mais qui est très courte. Donc Niépce va faire une association avec Daguerre à partir de 1829. Ils vont signer un contrat d'association pour pouvoir faire progresser cette invention que Niépce a baptisée l'héliographie. Donc l'héliographie, l'écriture par la lumière. Et donc dans cette héliographie, il y a donc ces deux parties, la reproduction d'une image et puis la reproduction de l'image produite par la chambre obscure. Donc dans la tête de Niépce, il y a déjà l'idée de pouvoir produire une matrice dans la chambre obscure dont on va pouvoir faire des tirages, comme en gravure, à une infinité d'exemplaires pour pouvoir les vendre. Niépce meurt en 1833, Daguerre reste seul, et il ne va garder de cette invention, de ce concept, que la première partie, c'est-à-dire la reproduction de la chambre obscure, et non pas la démultiplication des images. Et c'est comme ça qu'il met au point un système qu'il va baptiser de son propre nom, le daguerréotype, dont il a le système à peu près complet en 1837, c'est-à-dire qu'il va comprendre cette étape essentielle qui est celle du développement. À partir de là, le système est à peu près viable. Il ne reste encore qu'à raccourcir suffisamment le temps de pause pour pouvoir faire du portrait. Ça arrivera au début des années 1840. Mais en 1839, date à laquelle François Arago va déclarer l'invention de la photographie devant la France et le monde, le système est viable et commercialisable.
Avec ici la volonté de la France d'offrir la photographie au monde. Christine Barthes, hein, on retrouve le monde ici parce qu'il y a la conscience dès les origines de la photographie que nous ne sommes pas sur une invention en marge. Offrir la photographie au monde et contre cela, Louis Daguerre reçoit une rente, ce qui est pas mal d'ailleurs.
Oui, il y a quelque chose de vraiment fascinant sur cette... clairvoyance du gouvernement français à l'époque de dire, tiens, voilà quelque chose dont on peut s'emparer et dont on peut faire une annonce comme ça mondiale. Et c'était vraiment une démonstration de soft power qui a extrêmement bien marché, parce que effectivement le discours d'Arago, il est très intéressant à lire et à relire, parce qu'il dit beaucoup de choses, il projette beaucoup de choses, il donne un rôle à la photographie, notamment qui est lié à l'exploration mondiale, qui est lié aux colonies, qui est vraiment très très programmatique. Donc ça lance beaucoup de choses, et le fait est que sans doute Paul Louis pourra parler de Talbot après, mais on voit bien qu'il y a deux positions comme ça entre la divulgation d'un procédé, donc totalement contre l'idée du secret de l'inventeur, et comment cette opération de communication a extrêmement bien marché. C'est-à-dire que dans les jours et dans les semaines qui suivent cette annonce en France, on voit vraiment que dans le monde entier, les journaux font écho de cette annonce. Et alors, c'est pour ça qu'on a pu, ça peut expliquer que la date de 1839 ait été si longtemps vue comme la seule date d'invention de la photographie, parce que ça a écrasé un peu toutes les recherches précédentes par cet effet de grande communication par Arago et Daguerre.
Avec l'idée qu'il est certain que le 200e anniversaire de l'invention de la photographie sera aussi fêté en 2039, parce qu'on a besoin de ces anniversaires-là. Il faut le rappeler, hein, Nicéphore Niépce meurt en 1833, il a 68 ans, hein, c'est un vieux monsieur, c'est pas une mort précoce. Sachant que Daguerre, lui, est plus jeune, vit plus longtemps, il en tire les bénéfices, mince, alors que c'est Niépce quand même qui a fait une grande part du boulot. Hommage à Nicéphore Niépce.
J'aimerais que nous rendions hommage à Nicéphore Niépce avec sa petite nièce, le photographe que vous aimez, qui est Jeannine Niépce.
En 1813, la mode était de faire des lithographies, et il a commencé, comme son fils lui faisait des dessins et qu'il dessinait très bien, et que ce fils est parti, il s'est engagé. Il n'avait plus de dessinateur et il était ennuyé parce que la lithographie, il fallait savoir dessiner pour faire de la lithographie. Alors il a pensé, avec son frère Claude, à employer la chambre noire de leur grand-mère maternelle. Et la grande idée, l'idée de l'invention, c'était évidemment de mettre une surface sensible au fond de cette chambre noire où se formaient les images renversées. Entre 1816 et 1822, tous les jours, il consignait ce qu'il faisait, ses nouveaux progrès. Mais on peut situer à 1822 l'invention de la photographie. C'est très clair, il écrit à son frère « Je te fais passer 4 nouvelles épreuves que j'ai obtenues de telle et telle façon ». Et ce sont les premières photographies. C'est la photographie de Lagrange.
Il faut d'ailleurs préciser qu'à cette époque-là, pour obtenir une telle photographie, il fallait une pause d'environ 8 heures.
Ce qui est beaucoup trop long. C'était Jeannine Niépce qui s'exprimait ici à propos de Nicéphore Niépce. Paul-Louis Roubert, vous êtes président de la Société française de photographie. Vous coéditez la superbe revue Photographica, avec notamment un numéro à consacrer sur ses origines de la photographie, entre autres. Mais dites-nous, pour parler technique, Nicéphore Niépce, cette première photographie que nous évoquions tout à l'heure, le point de vue du grain, c'est ça? Quel support?
Alors, c'est une plaque d'étain. C'est une plaque d'étain sur laquelle il a étendu ce qu'on appelle du bitume de Judée. Donc, ça fait un peu comme les poudres de momie, etc. Enfin, voilà, ça fait partie de ces substances de pharmacie, voilà, qu'on utilise. Le bitume de Judée existe sous plusieurs formes, liquide ou poudre. Il a la caractéristique de se solidifier sous l'action de la lumière. Donc, c'est très intéressant. Solidifié sous l'action de la lumière, étendu sur cette plaque d'étain, après insolation, après mise en contact avec la lumière, on le lave à l'essence de lavande, et le bitume de Judée qui n'a pas été insolé est évacué. Et donc, ça laisse, si vous voulez, une petite surface solide là où la lumière est arrivée, ce qui permet d'ancrer, voilà, et de faire comme de la gravure, quoi. Donc c'est une plaque d'étain. Quand on la voit aujourd'hui, elle est venue il y a une dizaine d'années à Mannheim, parce que il y a eu une exposition sur la collection Gernsheim qui a été produite à ce moment-là. on a du mal à voir. C'est vraiment un fantôme, c'est très très loin et on ne sait pas si c'est notre esprit qui calque sur cette image la mémoire que nous avons de l'image elle-même ou si véritablement nos yeux voient quelque chose et qu'ils cherchent pendant plusieurs minutes. Mais cette plaque d'étain qui vient de la gravure, évidemment, hein, c'est les mêmes tailles, va être rapidement, ou en tout cas, elle va être abandonnée par Daguerre pour essayer d'autres supports, mais qui vont rester en métal. Et donc, c'est un peu le problème, c'est ça reste une image unique et non reproductible par elle-même.
Le point de vue du gras, cette photographie, cette première photographie, alors 1826, peut-être 1827, nous la connaissons, et vous avez raison, hein, Paul-Louis Roubert, de dire que nous plaquons ici ce que nous avons en tête par une reproduction ou quelque chose qui serait proche d'une interprétation beaucoup plus tardive.
Oui, parce que en fait, lorsqu'on voit directement la plaque, c'est vrai qu'on voit très peu de choses. Il faut vraiment trouver des angles. Et il y a plusieurs générations de reproduction de cette plaque. Et la première, elle a été faite au milieu du XXe siècle. Elle avait été produite par la société Kodak, qui avait reproduit avec des appareils photographiques et qui avait retouché cette reproduction pour faire comprendre au public ce qu'on pouvait voir sur cette image. Et je sais plus, on avait compté, mais pour le numéro 10 de la revue, combien de reproductions il y avait eu, mais jusqu'à la dernière, qui est sur le site de l'université d'Austin au Texas, qui est libre de droit, qu'on peut télécharger, tout le monde peut la prendre, et qui a été, elle, produite numériquement, mais effectivement avec des outils de retouche numérique pour faire venir cette image, mais qui n'apparaît pas véritablement lorsqu'on voit en direct cette plaque devant nos yeux.
Une plaque d'étain pour Nicéphore Niépce, Louis Daguerre et le daguerréotype, nous sommes sur un autre support.
On est sur une plaque de métal, hein, c'est une plaque de cuivre qui a été, elle, argentée, comme un miroir. Hein. Donc, on met de l'argent dessus, il est poli vraiment jusqu'au miroir. Et puis, par des vapeurs de mercure, on va rendre cette plaque, ce miroir, sensible à la lumière. C'est vraiment un fantasme de la littérature. Hein. C'est de la science-fiction pour les premiers spectateurs. C'est-à-dire qu'on réalise ici un miroir qui garde les traces de ce qu'il a vu. Et donc, ce miroir, photosensibilisé aux vapeurs, va garder l'image de la chambre obscure projetée.
C'est de la science-fiction, vous avez raison. C'est pourquoi il faut faire intervenir un mathématicien, Georges Lyon.
Les images daguerréotypées s'obtenaient sur des feuilles d'argent pur plaquées sur du cuivre. 5 opérations successives étaient nécessaires pour les obtenir. Primo, le nettoyage et le polissage des plaques. On les saupoudrait de ponce pulvérisée, puis on les frottait à plusieurs reprises avec un chiffon imbibé d'huile d'olive. Secondo, la sensibilisation. Les plaques nettoyées et polies étaient placées au-dessus d'une boîte au fond de laquelle était une capsule contenant de l'iode. Les vapeurs émises par ce corps s'unissaient à l'argent des plaques et formaient à leur surface une couche d'iodure d'argent. Troisième opération, les plaques ainsi préparées était exposé à la chambre noire. Le temps de pose variait de 3 à 30 minutes. Quatrième opération, les plaques insolées devaient être révélées le plus tôt possible. Cinquième opération enfin, l'image apparut, il fallait débarrasser les plaques de l'iodure d'argent non atteint par la lumière, ce qu'on obtenait en les plongeant dans un bain fait d'une solution faible d'hyposulfite de soude.
Nous étions en 1951 dans l'émission Un rue de culture française, avec ici l'explication de l'image daguerréotypée. Dites-nous, Christine Barthe, ce n'est pas facile à réaliser, nous l'entendons bien, avec toutes ces étapes. 1839, c'est une date retenue, sachant que déjà en 1839, la photographie sort simplement du laboratoire de Louis Daguerre, et déjà, elle peut parcourir le monde.
Oui, très rapidement en fait. On voit que dès les annonces là, pendant cet été 1839, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place et beaucoup de marins notamment qui sont en train d'organiser des départs de navires se disent tiens, mais voilà un instrument intéressant. Et donc on a vraiment des traces sur ces premiers bateaux qui partent avec des chambres photographiques vers l'Afrique et la côte du Ghana. Il y a Boué Villaumès, un marin dont les daguerréotypes n'ont pas perduré malheureusement. Et puis il y a un cas assez intéressant qui est celui de Goupil Fesquet qui part avec Horace Vernet et qui vont aller en Afrique et vont réaliser la première image photographique prise en Afrique à Alexandrie en Égypte. Et il y a aussi d'autres bateaux qui partent notamment vers l'Amérique. Il y a un cas formidable qui est celui du bateau L'Oriental Hydrographe que l'historienne brésilienne Marianne Estouradi a étudié pendant 20 ans avec une histoire absolument fantastique d'un bateau qui part de France et qui va faire des démonstrations de daguerréotypie au Brésil notamment, où ça va lancer tout un intérêt, un engouement et même une politique de la photographie très très tôt dans ces régions. Au Brésil, en Uruguay, au Chili, enfin c'est une histoire absolument fantastique que un de ces premiers bateaux, l'Oriental Hydrographe, qui part vraisemblablement avec plusieurs appareils pour faire des daguerréotypes, puisqu'on sait qu'il y a des démonstrations à la cour de l'empereur. L'empereur lui-même va se mettre à faire des daguerréotypes. Et puis une partie de l'équipage, tout l'équipage repart, mais une partie s'arrête en Uruguay, où on sait que l'abbé Comte, qui était donc un des premiers praticiens qui avait appris la technique du daguerréotype auprès de Daguerre, s'arrête et puis continue à donner là des cours de photographie. Donc il y a vraisemblablement des appareils qui restent ici. Et puis le bateau part, arrive au Chili, et là il y a une histoire assez incroyable de naufrage, dont on a réalisé après que c'était un faux naufrage, donc avec des images supposées perdues dans le port de Valparaiso, qui en fait rien n'est perdu, le bateau ne repart pas, mais il y a un autre bateau qui arrive, qui part vers l'Australie, et on sait que quelques mois plus tard, en avril 41, il y a un nouveau daguerréotype, donc un de ceux qui sont partis de France, qui est mis en vente en Australie, qui ne trouve pas de vendeur tout de suite, mais on sait que quelques semaines, quelques mois après, il y a des images qui sont des daguerréotypes qui sont réalisés en Australie. Donc il y a des histoires de transfert de technologie très rapidement.
Le personnage que vous avez cité tout à l'heure, Hercule Florence, donc un des pionniers de la photographie, qui revendique d'ailleurs avoir inventé le procédé de la photographie, si ce n'est avant Nicéphore Niépce, en tout cas au même moment, lui assiste à tout cela ?
Alors, il y a une conjonction assez intéressante qui fait qu'en janvier 1840, quand les démonstrations sont faites par les Français à la cour de l'empereur à Rio, il y a des journaux qui commencent à relayer ça en disant « Mais finalement, Hercule Florence, il avait étudié ça, etc. » Lui-même, il a parlé de l'annonce qu'il avait reçue par ces fameux journaux qui ont disséminé la nouvelle tout de suite en 1839. Et il a fait une description à quel point il était atterré de voir que, bon, il s'était fait voler un peu une invention, finalement. Il en a reparlé 20 ans plus tard. Donc il y a une conjonction en même temps. Lui, il dit à ce moment-là qu'il a arrêté de faire de ses recherches sur la photographie. Mais comme c'était vraiment un inventeur né, il a fait plein d'autres recherches qui sont très intéressantes à mettre en comparaison avec cette question de fixer une image par l'action de la lumière, donc la photographie, et qui sont des essais de pratiques de papier inimitable, donc une espèce de tentative de faire des billets de banque avec des motifs graphiques là aussi, et une autre invention qui semble pas avoir de rapport immédiat, qui est l'enregistrement, la notation des sons des animaux. Qui en fait est vraiment intéressant du point de vue de cette idée d'enregistrer le réel par toutes des formes et des formes graphiques surtout. Et ces recherches qu'il appelait la zoophonie sont à la base d'une des plus grandes collections aujourd'hui d'enregistrement de sons d'animaux au monde. Donc la base est toujours au Brésil. Donc voilà, Hercule Florence, il est isolé, il fait des tentatives. Ces tentatives, c'est difficile de voir aujourd'hui à quoi ça pouvait ressembler. On a On a pas mal d'images, hein, ceci dit, mais sont surtout des images de reproduction, d'étiquettes de pharmacie, de diplômes, de franc-maçonnerie, des choses comme ça. Mais une image dite naturelle, et notamment une des premières images qui décrit qu'il y a un buste de Lafayette, ces images-là n'ont pas survécu, malheureusement. Donc ce qu'on connaît, c'est beaucoup, certaines des images, des écrits, et notamment des écrits où il utiliserait très tôt le terme de photographie. C'est aussi un des aspects très intéressants de ses recherches.
Ah oui, parce que si c'est lui qui est à l'origine du mot photographie, ce n'est pas rien, sachant, je rappelle qu'il est né à Nice, mais il est né en 1804, ça tombe bien, parce que Nice, à ce moment-là, sous la Première République française, c'était un département français, donc on peut dire qu'il est français. La photographie a été inventée en France, et en tout cas, 1839, c'est Daguerre qui... propose ce procédé, hein, qui a été vraiment référencé comme étant pendant longtemps le début de la photographie. Et bien, dès 1840, dans les journaux au Brésil, il est question du travail d'Hercule Florence.
Je ne sais pas si quelqu'un aura compris que je confonds la polygraphie, découverte entièrement mienne, avec la photographie, sur l'invention de laquelle je n'ai aucune prétention, après avoir appris ce qui s'est produit à son sujet en Europe. Il est vrai que j'utilisais la photographie pour dessiner depuis des années. Et comme jusqu'en août 1839, je n'ai jamais entendu parler que les mêmes expériences étaient menées en Europe, il ne serait peut-être pas téméraire de dire que j'ai aussi inventé la photographie. Nom qui n'était pas inconnu de moi lorsque je le vis pour la première fois dans les journaux de Rio de Janeiro. Mais le fait est que je n'ai pas poursuivi mes expériences. Et pour cette raison, je ne veux pas m'attribuer une découverte à laquelle un autre aurait peut-être un meilleur droit.
Thomas Beau qui nous lisait cet extrait du journal de Commercio, nous étions le 10 février 1840 avec une traduction de Maria Inés Turazzi. Dites-nous, Paul-Louis Roubert, Nicéphore Niépce, nous l'avait dit, hein, il avait la volonté de reproduire des documents déjà imprimés, une sorte de photocopieuse avant l'heure, mais on l'entend bien. Hein. Ici, Hercule Florence, c'est un peu la même démarche. Et puis, Christine Barthes nous disait que dans le voyage pour réaliser la première photographie en Égypte, il y a Horace Vernet, c'est un peintre, Horace Vernet. On peut dire ici que tous ces milieux se mélangent, on est vraiment dans les premiers temps. Faudrait pas imaginer la photographie complètement autonome comme elle l'est aujourd'hui. On est dans un monde de l'invention, de la science, du bricolage, de la création aussi. Puis tout ça est extrêmement poreux.
Oui, tout ça est extrêmement poreux. En fait, il faut envisager. Voilà, Daguerre entre les mains en 1837, un système plus ou moins viable. Il est encore trop long en temps de pause, donc on ne peut pas faire le portrait. Mais il a très peur, lui aussi, de se faire voler son invention. Donc il va chercher une issue, et c'est François Arago, député des Pyrénées-Orientales et secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, qui va lui offrir cette issue, c'est-à-dire le fait que, comme vous le disiez tout à l'heure, l'État français va acheter la recette du daguerréotype, va la livrer au monde, sauf à l'Angleterre, et va octroyer une rente viagère à Daguerre jusqu'à son décès en 1851. Mais ce système est loin d'être parfait. Et donc, en fait, ce que je disais tout à l'heure, photographie, invention perpétuelle, c'est-à-dire que il faut, sans faire d'anthropomorphisme, enfin, c'est un bébé qui ne sait pas marcher. Il y a une grosse potentialité, mais il va falloir le rendre reproductible, pérenne, faire en sorte que les tirages qui vont en être faits, produits, tiennent dans le temps et résistent à la lumière, et puis acquiert cette qualité qui ne va apparaître qu'à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire l'instantanéité. C'est-à-dire la photographie que nous on fait aujourd'hui tous les jours et qui nous permet d'attraper un enfant en train de courir, un chien, je donne toujours ces exemples, enfin, d'éléments mobiles immaîtrisables, c'est-à-dire un enfant, un animal, mais aussi ça peut être une calèche, voilà, puisse être fixé sur la plaque sans laisser un fantôme, ça n'arrivera que dans les années 1880 avec la photographie instantanée. Jusque-là, la photographie, c'est très beau, ça fait peur, ça menace des graveurs, ça menace des peintres, peut-être, mais c'est vrai que ça manque de praticité. Et pour revenir un tout petit peu sur cette histoire-là, c'est-à-dire que, en fait, si cette invention met autant de temps, c'est que tous ces gens-là, Niépce, Hercule Florence, Daguerre, ce sont pas des scientifiques. Ce sont des gens qui, on entendait le professeur Lyon tout à l'heure parler, enfin voilà, lui, il connaît très bien tous ces éléments-là, et la conjonction de tout ça. Quand un scientifique à l'époque peut résoudre l'équation en une semaine et trouver le système viable. Le problème, c'est que tous ces gens-là ne sont pas scientifiques, donc ça va mettre des années. Et donc, ça va devenir un système autonome, véritablement heuristique, qui va pouvoir nous permettre de nous renseigner sur le réel que dans les années 1880. Et c'est à ce moment-là que ça deviendra un outil véritablement pour la science.
Voilà, il ne faut pas plaquer notre connaissance de la photographie sur ces premiers temps de la photographie, avec malgré tout Paul-Louis Roubert, quand en 1839, la France donne la photographie au monde, sauf à l'Angleterre. Enfin, pourquoi pas au Royaume-Uni? Pourquoi? Parce qu'on n'est pas particulièrement ennemis à ce moment-là.
Ah, scientifiquement et industriellement, ah, on n'est pas forcément les meilleurs amis du monde. Et surtout quand Arago va faire les premières annonces en janvier 1839 sur l'invention de la photographie, ça va réveiller un inventeur, ou en tout cas un mathématicien philologue anglais qui s'appelle William Henry Fox Talbot, qui était parti en voyage de noces en 1833 au lac de Côme, et qui avait trouver ce paysage absolument merveilleux. Voilà, il avait essayé de le reproduire par non pas une chambre obscure mais une chambre claire. Ce sont ces petits instruments qui permettent de faire en sorte que dans le même champ de vision se superpose à la fois la feuille sur laquelle vous voulez dessiner et le paysage qui est devant vous. C'est un tout petit appareil que vous pouvez avoir dans vos valises, etc. Il fait ça, il dessine le paysage qu'il voit depuis la terrasse de son hôtel, et puis il enlève, il regarde la feuille toute seule, et c'est d'une pauvreté épouvantable. Enfin, il se rend compte qu'il ne sait pas dessiner, il se dit, en rentrant chez lui, il se dit, mais si on pouvait trouver un système qui enregistre automatiquement le point de vue de la chambre obscure, on pourrait garder la mémoire de ces merveilleux paysages. Et c'est comme ça qu'il lui-même, sans savoir les recherches, sans connaître les recherches ni de Niepce ni de Daguerre, va inventer un système qui va devenir un système concurrent, et donc anglais, concurrent du système français.
Il a un nom, ce système-là ?
Ça s'appelle le calotype, ça va être breveté en 1841. Et lui, c'est lui qui va gagner, si vous voulez, la palme de la photographie moderne. Puisqu'en histoire de la photographie, c'est toujours une histoire de vainqueur. Ce qui compte, c'est l'usage. Et donc, ce qu'il va utiliser, c'est non pas une feuille de métal pour enregistrer le point de vue de la chambre obscure, mais c'est une feuille de papier qui peut être rendue transparente. Et donc, ça produit une première génération d'images qu'on appelle un négatif. Et à partir de ce négatif, on peut tirer une infinité de positif, et donc c'est la photographie reproductible par elle-même qu'il invente ici et dont il dépose le brevet en 1841 et qui va se développer jusqu'à aujourd'hui.
Vous voyez, on est à deux doigts à ce que les Britanniques disent que ce sont eux-mêmes les inventeurs de la photographie.
Dès 1833, un Anglais, William Henry Fox Talbot, s'intéresse aux recherches photographiques de Niepce. En 1835, il réalise sa première image sur papier. Aujourd'hui, le musée Niepce présente le premier album de l'histoire, entièrement illustré de photos, des photos réalisées selon le procédé du calotype. Le musée a donc saisi l'occasion d'inviter un héritier de Fox Talbot, lui aussi anglais, Michael Gray. Il va expliquer aux amateurs toute la finesse du procédé, l'ancêtre du négatif d'aujourd'hui. Le photographe prépare tout d'abord à la lumière, puis dans l'obscurité du laboratoire, le papier à impressionner. Une technique chimique longue, plusieurs heures, avant de pouvoir charger la chambre noire. Selon le sujet photographié, le temps d'exposition varie de 3 à 30 minutes. Un long travail encore pour réaliser le négatif, avant de passer au tirage de la photo. Un tirage qui se fera par contact sur papier salé.
FR3 Bourgogne, en 1987. L'évocation ici de tous ces procédés, Christine Barthes, nous permet de réfléchir à l'appropriation par ces photographes un peu partout dans le monde de ce qui a pu être inventé ailleurs, au sens où ce n'est pas simplement appliquer ce que dit la notice et le mode d'emploi de ce qu'on a acheté en Europe, c'est aussi essayer d'apporter des améliorations. On a ça à travers le monde.
Oui. Et ce qui est intéressant de voir, c'est à quel point cette technique, elle va être prise, utilisée, transformée dans différents lieux du monde. Assez rapidement, en réalité, d'abord par le biais du daguerreotype, mais toutes les techniques vont être vont être utilisés par la suite. Et on a souvent pensé ça en termes un peu simplistes de l'influence, vous voyez, l'image, l'appareil qui vient d'Europe et puis qui est utilisé. Et on a souvent pensé qu'elle était utilisée et transmise par le biais des Européens. Et c'est pas si vrai que ça au final. Il y a beaucoup de recherches dans ce sens depuis plusieurs années qui nous font relativiser beaucoup cette idée d'influence. Il est vrai qu'il y a eu évidemment des premières caméras qui ont voyagé, mais c'est assez passionnant d'étudier comment après des choses se sont mises en place de façon assez différenciée selon les pays, parce que c'est vrai que par exemple si on prend le cas de l'Iran qui était à ce moment-là une dynastie effectivement très tournée vers l'Europe, mais on voit que les premiers souverains, les Shahs d'Iran, Mohammed Shah et puis surtout son fils Nasser al-Din Shah à partir du 1848, s'intéresse très très vite à la photographie au daguerréotype. C'est à la demande du Shah d'Iran que deux appareils à faire des daguerréotypes sont envoyés par la Russie et par le Royaume-Uni en Iran. Donc on voit bien les sphères d'influence déjà. Et c'est un diplomate russe qui s'appelle Nicolas Pavlov qui fait des démonstrations en 42 à la cour du Shah d'Iran. Et donc le souverain est très intéressé, lui aussi, comme Pedro II au Brésil va faire de la photographie du daguerréotype, mais il va aussi vraiment lancer toute une collection qui existe toujours, une énorme collection de photographies qui est conservée au palais du Golestan toujours. Il va faire traduire énormément de traités de photographie, donc beaucoup d'informations qui circulent évidemment par le texte, à travers les mers, pas seulement les appareils, pas seulement les images, mais les textes, comment faire de l'image. Et puis, il va aussi mettre en place un système d'enseignement de la photographie dans l'école, l'équivalent de l'école polytechnique de Téhéran. Donc, il y a plusieurs souverains comme ça qui, très tôt, perçoivent l'intérêt de cette technique, à titre personnel et récréatif, mais aussi à titre de représentation. Ça leur permet de se faire photographier. Donc, Nasser al-Din Shah, il va se faire photographier par Nadar quand il vient en France. Mais il a aussi ses propres photographes officiels qui sont formés très, très rapidement. Donc, il y a ces usage-là, évidemment qu'on peut assez bien relayer de plusieurs souverains, monarchies qui adoptent assez vite la photographie. Et puis il y a aussi évidemment des usages beaucoup plus vernaculaires, la photographie commerciale, la photographie de studio qui va se mettre en place assez rapidement, principalement dans les grands ports et les zones d'échange mondiales, que ce soit au Japon, au Chili, enfin dans multiples centres d'échange et de vente et d'échanges commerciaux. Donc c'est assez divers et il faut aussi évidemment pas oublier le rôle très important de l'influence missionnaire. Les missionnaires adorent utiliser la photographie. C'est un instrument qui permet de faire beaucoup, beaucoup de choses très différentes. Mais c'est souvent aussi par ce biais-là qu'il y a des apprentissages qui se font. Donc vraiment des répartitions assez multiples pour différents usages, par différents canaux qui vont très vite en réalité.
Dans les années 1820, avec Nicéphore Niépce, nous avions un support plaque d'étain. Plus tard, avec Daguerre, c'est la plaque de cuivre. Mais tout ça n'est pas reproductible. Et c'est important. Avec Talbot, là, c'est reproductible. Quel support cette fois-ci?
C'est une feuille de papier. C'est du papier à lettres, en fait. Voilà, avant que le papier ne devienne photographique lui-même. Mais ça raconte une autre histoire. C'est que avant la fin du 19e siècle, faire de la photographie, c'est un artisanat. Il faut tout faire soi-même. Il faut acheter du papier, il faut l'insoler soi-même, il faut le développer, il faut faire les tirages. On peut fabriquer sa chambre obscure. Il n'y a pas de normalisation, il n'y a pas de standardisation. C'est une affaire de professionnels et d'amateurs fortunés qui ont le temps et les moyens de consacrer de se consacrer à ce loisir ou à cette distinction de pouvoir faire de la photographie. Mais voilà. Et on va passer du papier avec Talbot, donc avec le calotype, au verre en 1800, dans les années 1850. Au début des années 1850, on invente un autre système et on remplace le papier qui laisse tout de même sa marque, son empreinte dans l'image photographique. Lorsqu'on reproduit le négatif en positif, on voit toujours la trame du papier. Et donc, c'est un désavantage parce que ça rend les images un peu molles. Ça fait des très, très, très beaux tirages. Mais en termes de qualité et de performance, telle comme on l'associe à la photographie au 19e siècle, ça manque de netteté, ça manque de profondeur de champ, etc. Et donc, on va remplacer ce support papier par un support vert et on va inventer un négatif vert qui va devenir le négatif que tous les photographes vont utiliser du milieu des années 50 jusqu'aux années 1880 quand on va inventer des plaques sèches dans les années 1880.
Avec ce négatif vert, il est possible d'avoir des tirages de qualité avec beaucoup de précision, c'est cela?
De très grande qualité, oui. Oui.
Et c'est oui, ce qu'on le vert, ça va donner, monde, oui. Ça va donner effectivement de la précision. Et on voit qu'il y a, du coup, il y a des écoles d'utilisation, ceux qui aiment bien le négatif papier parce que ça donne un espèce de sfumato assez intéressant. Et puis, ceux qui vont être vraiment les tenants de la précision, de la netteté, qui était un vrai plus depuis le daguerréotype, qui est quand même le procédé le plus précis possible depuis l'invention de la photographie. Il n'y a jamais plus précis que ça. Et donc, on voit bien qu'il y a des nostalgiques de cette précision-là. Et le négatif vert va répondre à ce besoin, en fait.
On a un premier temps, ces années 1820 jusqu'à les 1839, on va dire, où c'est un vrai temps de pionnier. 1839, ça y est, il est possible de se faire photographier. Ça demande un peu d'argent quand même. Hein. C'est pas si simple que ça dans les années 1840. À quel moment est-il possible de se faire photographier pour pas trop cher? C'est-à-dire que ce ne soit pas réservé uniquement à l'élite.
Je dirais ça dépend où et ça dépend dans quelle classe sociale.
Oui. Non, c'est en fait ce qui est assez impressionnant, c'est que donc comme on le disait tout à l'heure, le daguerréotype tombe dans le domaine public finalement en 1839 et c'est ce qui explique Christine. C'est un système ouvert aux améliorations, donc tout le monde va pouvoir s'en emparer. Donc très vite, il va y avoir des améliorations. On va raccourcir le temps de pose. On va permettre que on va pouvoir faire du portrait, parce qu'on va donc c'est plus une torture de se faire photographier, etc., etc. Et très vite, dès le début des années 40, en fait, la photographie devient rentre dans le système des choses banales, pour citer Daniel Roche. C'est un objet de consommation. Donc, comme objet de consommation, il va rapidement ne plus vraiment faire l'événement. Voilà. Donc, on va commencer à avoir des daguerréotypes de portraits, on va pouvoir collectionner. Bon, ça pose beaucoup de problèmes parce que c'est pas reproductible. Donc, mais les améliorations vont permettre cette reproductibilité. Dans les années 1850, on a des grands portraitistes qui sont presque des. Ils produisent une élite photographique. Hein. C'est des nadars, des gens comme ça, qui produisent, un portrait photographique, c'est 100 francs, la pose. Une plaque de verre, une pose, on photographie la personne, et puis à partir du négatif vert, on produit un tirage. C'est 100 francs, ça reste très cher.
C'est très cher, parce qu'un ouvrier gagne entre 3 et 5 francs par jour, voilà, donc c'est ça fait beaucoup d'argent. Oui.
Et à la fin des années 50, un photographe qui s'appelle Disdéry va prendre cette même plaque de verre et au lieu de faire une image dessus, il va en faire 8, 6 ou 8. C'est-à-dire le prix est divisé par 6 ou 8. Voilà. Donc déjà, on peut avoir pour moins de 100 francs 8 portraits de soi ou de la grand-mère ou de l'enfant ou même de Napoléon III. Voilà. Et on va commencer à rentrer dans l'univers de la consommation des images photographiques multiples qu'on va pouvoir collecter. Vous trouvez encore au puce ces gros albums avec des gros fermoirs, avec des fenêtres déjà faites pour ces portraits qu'on appelle des portraits cartes, qui sont pas d'une grande, grande qualité, mais qui permettent d'être produits en très grand nombre. Et donc, la concurrence aidant, l'industrie, la proto-industrie du portrait photographique arrivant, on sait que dans les années 1860, dans des baraques de foires, on peut avoir, chez des photographes ambulants, des portraits à 1,50 franc, 2 francs.
Ah oui, là, c'est particulièrement accessible. Il n'est pas étonnant que le poète s'y intéresse, vu qu'il est si en phase avec la vie moderne.
Dans ces jours déplorables, une industrie nouvelle se produisit qui ne contribua pas peu à confirmer la sottise dans sa foi et à ruiner ce qui pouvait rester de divin dans l'esprit français. Cette foule idolâtre postulait un idéal digne d'elle et approprié à sa nature. En matière de peinture et de statuaire, le credo actuel des gens du monde, surtout en France, est celui-ci. Je crois à la nature et je ne crois qu'à la nature. Je crois que l'art est et ne peut être que la reproduction exacte de la nature. Ainsi, l'industrie qui nous donnerait un résultat identique à la nature serait l'art absolu. Un dieu vengeur a exaucé les vœux de cette multitude. Daguerre fut son messie. Et alors la foule se dit, puisque la photographie nous donne toutes les garanties désirables d'exactitude, ils croient cela, les insensés, l'art, c'est la photographie. À partir de ce moment, la société immonde se rua comme un seul Narcisse pour contempler sa triviale image sur le métal. Une folie, un fanatisme extraordinaire s'empara de tous ces nouveaux adorateurs du soleil.
Au moment de commenter le salon de 1859, Charles Baudelaire évoque la photographie, une lecture dans le cours de l'histoire de Raphaël Laloum. Christine Barthes, pour bien réfléchir à la photographie, en écho à ce qu'on vient d'entendre sur Baudelaire, il faut se méfier aussi de toutes ces lectures a posteriori. C'est tout à fait le cas avec Baudelaire. Si on limitait Baudelaire à la méfiance vis-à-vis de la photographie, ce serait complètement erroné. Lui-même qui s'est fait photographier, mais il a l'air un peu revêche. On sent qu'il n'aime pas le temps de pose, ça lui plaît pas beaucoup. Mais c'est ça aussi, c'est se départir de cette histoire nationale, peut-être nationaliste, qui a longtemps été écrite sur la photographie inventée en France. La fierté que nous avons d'avoir accueilli Nicéphore Niépce, Louis Daguerre, pourquoi pas Hercule Florence, vu qu'il est né à Nice. Non mais c'est ça,
oui,
c'est
oui, mais c'est
porter un autre regard sur cette histoire-là.
C'est vrai qu'on sent bien avec ce texte-là de Baudelaire que voilà, la photographie a déjà suffisamment perdu son attrait de nouveauté pour devenir quelque chose un peu vulgaire et un peu trop à la portée de tout le monde, donc pas recommandable. Et ça va suivre des chemins un peu différents selon les pays. Et c'est vrai qu'on disait le daguerréotype, ça a coûté très cher. Et rapidement, on a essayé de trouver d'autres techniques qui vont coûter moins cher pour pouvoir avoir un marché plus large. Et ce qui est intéressant dans ces débuts, c'est de voir aussi comment il y a des transformations qui se font. Et je pense notamment au cas des utilisations du collodion humide où il a cette propriété, si on fait un négatif au collodion et qu'on le sous-expose un petit peu, et puis qu'on le passe sur une surface sombre, une surface noire, il va apparaître en positif. C'est un petit truc d'optique comme ça, assez intéressant. Et du coup, on a commencé à produire ce qu'on appelait des ambrotypes, parce que ça ressemblait à un daguerréotype dans la mesure où on faisait un étui équivalent, et puis ça coûtait beaucoup moins cher à faire. Et donc, ça a eu un certain succès en Europe, aux États-Unis, mais ça a eu un succès totalement énorme au Japon, par exemple, qui venait de se mettre un peu à la photographie après une période, évidemment, de fermeture importante, donc il commence un petit peu après les autres, mais il découvre ce procédé-là, et par exemple, le verre, à ce moment-là, c'est un matériau qui extrêmement valorisé au Japon parce que c'est un matériau rare. Et du coup, ce qui nous paraît un sous-produit du daguerréotype, l'ambrotype, paraît au Japon une image extrêmement précieuse parce que justement c'est sur du verre. Et donc, ils vont mettre au point ces ambrotypes, mais avec des montages à la japonaise, donc en utilisant ce bois de Polonia qu'ils utilisaient pour les estampes. Donc, ça fait pour nous un objet très différent comme ça. Et puis, ça va répondre à une demande très très forte qui est une demande mémorielle au fait de pouvoir représenter, avoir une image des gens avant leur décès. Donc il y a une tradition comme ça de pouvoir représenter les ancêtres sur les autels domestiques. Et du coup, la photographie, notamment par l'ambrotype, va répondre totalement à cette pratique au Japon. Donc on voit comment il y a des objets comme ça qui vont se transformer et répondre à des usages culturellement un petit peu différents, bien que évidemment la pratique mémorielle, c'est une des grandes fonctions de la photographie.
Avec ici Paul-Louis Robert, l'importance de ces premiers temps de la photographie. Et pour terminer, quand même, on peut parler du génie inventif de ces gens-là. Et l'utiliser au pluriel, c'est pas simplement faire affront à Nicéphore Niépce. Ils étaient nombreux, mais on est quand même sidérés. Si peu de temps.
Oui, c'est vrai que. Enfin, je disais tout à l'heure, voilà, le problème, c'est qu'ils n'étaient pas scientifiques. c'est de la physique amusante d'une certaine manière, mais ça répond, voilà, c'est peut-être aussi ça l'idée, c'est-à-dire pourquoi ça a été inventé dans les quatre coins du monde. Parce que après la lithographie, il y avait une demande de reproductibilité, et donc ça, ça commence à ce moment-là.
Avec ces origines de la photographie que vous nous avez présentées, Christine Barthes, merci beaucoup, Paul-Louis Roubert, merci beaucoup à la revue Photographica avec le numéro de mai 2025, bientôt 200 ans, la photographie inventée comme ça, bientôt 200 ans, on n'a pas la date précise. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Prochain épisode dans le corps de l'histoire. Attention aux yeux, une histoire du flash.
Flashman, 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 combattant au merveilleux pouvoir. Flashman, 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 justicier descendant de l'espace. Flashman, 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 vaillant triomphant de la lumière. Flashman, 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 merveilleux prince de l'univers.
Flashman, le héros absolu de Thomas Beau qui réalise le cours de l'histoire sur France Culture avec à la technique Alex Dang, émission préparée par Raphaël Laloum, Jeanne Delecroix, Jeanne Copet, Solène Roy et Maïwenn Guizhou. Le cours de l'histoire est écouté à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.